dévoilé dans sa version améliorée. Un avion plus grand et moins gourmand en kérosène. Il pourrait être mis en service en 2012. L'alerte canicule, elle a été étendue aujourd'hui à toute la façade atlantique et jusqu'au centre de la France, ainsi que sur les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Il fait plus de 36 degrés et les températures devraient encore augmenter demain. Prudence donc pour les personnes les plus fragiles. Les coureurs du Tour de France se reposent aujourd'hui avant d'attaquer demain les Alpes. La 15e étape partira de Gap pour l'Alpe d'Huez et ce matin un contrôle antidopage surprise a été organisé. Tous les coureurs contrôlés ont été déclarés aptes à continuer la course. Et on part maintenant à la Bourse de Paris.
La Bourse avec la robinetterie Amel, robinetterie sanitaire des professionnels.
Et Cédric Decoeur, à la Bourse de Paris, le CAC 40 est en baisse.
Oui, Céline, après avoir tenté de se maintenir dans le vert au cours des premières minutes de cotation, le marché parisien a basculé dans le rouge, toujours préoccupé par la situation au Proche-Orient et son impact sur les cours du brut. Dans ce contexte, le CAC 40 abandonne 0,73% à 4745 points dans un volume d'affaires de 4,5 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Du côté des autres places européennes, on retrouve cette même orientation baissière. Francfort cède actuellement du terrain, Londres moins 0,25% et l'euro First 80 abandonne 0,54%. Enfin, sur le marché des changes, le billet vert est logiquement porté par son statut de valeur refuge. L'euro se négocie contre un dollar 25,41 en baisse de 0,99% face à la devise américaine. Voilà, Céline, je vous rappelle le CAC 40 moins 0,74% à 4745 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, tout de suite l'Afrique enchantée avec Vladimir Cagnolari et Soro Solo.
Merci Céline Aslo, on vous retrouve dans une heure pour les informations. Et quant à nous, on va marcher, marcher pour la démocratie, rien que ça.
Coco, hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Cagnolari. Solo Soro. Yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Aujourd'hui encore, nous vous invitons à un voyage musical sur le continent. Oui, parce que c'est ça le principe de l'Afrique enchantée, vous raconter l'Afrique avec ceux qui la chantent. Alors c'est vrai, ces chansons, elles sont parfois drôles, nostalgiques ou même carrément euphoriques, mais pas toujours, hein. Ça dépend évidemment du thème qu'on a choisi. Et aujourd'hui, on va parler de la démocratie en Afrique. Donc n'en déplaise à ceux qui n'attendent que des paroles douces et sucrées, oui, nos chansons du jour, elles résonneront plutôt comme des grands coups de gueule, parce que la démocratie a été et reste pour bon nombre de peuples africains une chimère. Donc à vos atlas, à vos cartes du continent, nous partons ensemble à la recherche d'une dame qui s'appelle Démocratie africaine. Et comme tous les jours, pour nous accompagner dans ces pérégrinations africaines, j'ai le privilège d'être accompagné d'un artiste de la contestation dont le hobby dans son pays était de fabriquer du poil à gratter pour dictateur. Il a le copyright, j'ai nommé Solo Soro. Bonjour Solo.
Bonjour Vlad.
Ça va?
On fait aller.
Je disais poil à gratter parce qu'avec ton émission que tu avais donc sur la radio ivoirienne, Le Grognon, donc les gens appelaient pour protester contre les abus de pouvoir dont ils étaient victimes dans les services publics et bien d'autres choses encore, et tout ça sans filtre avant de passer à l'antenne, je le précise, eh ben tu t'es fait pas mal d'amis dans le monde politique de ton pays.
Ah là là, des amis, je m'en suis fait. Vive la liberté d'expression. Et je me souviendrai toujours du coup de fil de M. Issa Bamba, c'était en octobre 1992. Il appelle pour grogner contre le président de la République, le père fondateur de la nation. Tu te rends compte? Un vrai scandale. Il dit, allô, le grognon, je voudrais grogner contre Oufuor Boigny. Monsieur Issa Bamba, qu'avez-vous à reprocher au président de la République? Je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Ah, oh, tiens qu'à cela, votre courrier s'est perdu à la poste. Mais non, je le lui ai remis main à main. Oula. Ah bon? À quel carrefour avez-vous donc rencontré le président de la République pour lui remettre votre courrier? Ben, c'était à l'occasion de la rencontre de la Chambre des métiers avec le président de la République. Il nous recevait dans son village à Yamoussoukro.
Waouh, toi tu devais trembler.
Oh là, le mec il est imparable. Il y avait tel minute, enfin ici tout le monde. Et j'ai remis la lettre au chef de protocole qui la lui a remise directement main à main sous mes yeux. Il dit, ah, Bon, ben d'accord, si mes souvenirs sont bons, la Constitution ivoirienne impose au président de la République, et je tremblotais bien entendu, de répondre à tout citoyen qui lui a écrit. Donc, monsieur du service de communication de la présidence, où il faut écrire à monsieur Issa Bamba. Eh bien, ce monsieur, en fait, avait appelé entre 6h le matin et 7h. À 7h, le préfet du département avait convoyé des gendarmes chez lui. On l'a embarqué manu militari, direction Yamoussoukro, pour voir le président de la République. Toute sa famille, oh mon Dieu, notre fils est mort, oh, on va l'emprisonner. Enfin, bref, il est arrivé et vous pouvez le recevoir.
Qu'est-ce qu'il voulait au fond?
En fait, il avait écrit au président de la République pour lui demander de financer la construction d'un établissement de formation professionnelle dans sa ville, qui est Dimbokro, au cœur de la Côte d'Ivoire. Donc il est reçu par le président de la République.
Mon fils, j'ai bien connu ce que vous avez dit tout à l'heure à la Radio Nationale. Mais voyez-vous, le plan quinquennal ne prévoit pas de construction d'école en ce moment. Mais je vois que vous êtes un jeune très motivé. Voici une petite enveloppe pour vous aider à développer la formation des jeunes à Dimbokro.
Ça, c'est la voix du Fouet Bouignard. J'ai l'impression de l'avoir en face de moi.
Et il y avait, dans cette enveloppe, 5 millions de francs CFA. Et puis, effectivement, Issa Bamba récupère la somme et construit un hangar dans lequel il installe des bancs, bref, l'équipement. Et il sélectionne 30 jeunes. Ce que nous appelons des déchets scolaires, ce sont des gens qui ont arrêté leur scolarité en cours de chemin et les a formés au métier de la construction métallique pour fabriquer des roues de charrues, des pompes, des pièces détachées de pompes d'eau potable, de fontaines d'eau potable, etc. Et je suis allé vérifier en 1993, c'était en février, et c'était tout à fait exact. Il avait mis cet argent au service de la formation de la jeunesse.
Bon, voilà. Quoi, parfois, ça a du bon de grogner, même si toi, tu t'es dû te faire une belle frayeur. Allô, allô, c'est l'Afrique au téléphone. Et aujourd'hui, elle grogne en chantant, bien sûr.
Assalamu alaikum, Mama Africa. Assalamu alaikum, Mama Africa. Il est temps qu'on se réveille, Mama Africa. Il y a trop de problèmes en Afrique. Les enfants des mêmes pays qui s'entretuent. Des policiers qui tuent des civils. Des militaires qui tuent des militaires. Des religieux qui trompent la religion. Des politiciens qui divisent leur peuple. Et c'est le peuple qui pleure. Et c'est le peuple qui saigne. Tout ça là va finir quand pour que l'Afrique sorte dans ses sous-développements. À Benin, la Tchèque, les ennemis de l'Afrique, ce sont nos dirigeants africains. Le mal de l'Afrique, ce sont nos dirigeants africains. Il est temps qu'on se réveille, Mama Africa.
Rastafari. Bientôt la révolution de la jeunesse africaine. Reste à dire non, non et non. Les guerres civiles en Afrique ont des prix. Les guerres tribales en Afrique ont des prix. Les guerres religieuses, on en veut plus. Les guerres ethniques, on en veut plus. On en a marre. Le peuple en a marre. On en a marre. L'Afrique en a marre. Le peuple en a marre. L'Afrique en a marre. Le peuple en a marre, l'Afrique en a marre, le peuple en a
L'Afrique en a marre, Tiken Dia Fakoli, et c'était en 2000 sur l'album Le Caméléon, paru en Afrique, mais pas en France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a joué cette version, car la chanson a été reprise en 2002 sur l'album France-Afrique.
Bon, c'est une vaste, trop vaste question que celle de la démocratie sur le continent. Donc évidemment, on va pas pouvoir parler de tout et de tous, on en serait bien incapable. Mais il est peut-être bon de rappeler qu'avant la colonisation, l'Afrique était faite de chefferies, de royaumes, voire d'empires, où le pouvoir, c'est vrai, était souvent dynastique, mais ça n'empêchait pas forcément qu'il y ait une forme de participation de la population aux décisions qui concernaient la communauté.
Mais bien sûr que oui, mais ce n'est pas forcément identique au modèle occidental. Et une fois de plus, j'évoquerai l'exemple de l'Empire Mandingue. Les grandes familles qui composaient cet empire étaient représentées au sommet de l'État. Et il y avait par exemple aussi la représentation des différentes castes, c'est-à-dire la caste des forgerons, des tisserands, des bozos. Les bozos, ce sont les pêcheurs. Et des orfèvres. Et tout cela représentait les différentes strates de l'échelle sociale et qui participaient aux prises de décisions collectives au sommet de l'État d'un empire comme celui du Mandingue.
On a parlé il y a deux semaines de la façon dont l'installation de l'État à l'occidental pendant l'époque coloniale avait déstructuré l'organisation traditionnelle politique. Et c'est vrai que c'est cet État-là qui va rester en héritage au moment de l'indépendance.
Tout à fait.
Mais déjà juste avant les indépendances, entre la Deuxième Guerre mondiale et les indépendances qui sont donc déroulées au tournant des années 60, il y avait bien une démocratie au moins théorique, puisqu'il y avait à l'époque déjà le multipartisme et des élections prévues dans les constitutions.
La plupart, pour ne pas dire tous les pays d'Afrique noire en tout cas, disposaient d'alinéas qui prévoyaient ces élections. Et le multipartisme existait avant l'arrivée de ces indépendances, en tout cas dans la zone francophone qui représente environ 22 pays. Et tout ça s'est manifesté à la fin, comme tu l'as dit, de la Seconde Guerre mondiale. Mais le débat était plutôt orienté le plus souvent sur la décolonisation. Fallait-il, oui ou non, rester dans le giron français? À quel parti politique français fallait-il s'associer pour défendre les intérêts des Africains qui étaient décrétés entre-temps français, citoyens français, après 1946?
Et donc justement, rappelons que ces citoyens, ils allaient pouvoir voter pour élire des députés représentant leur territoire à l'Assemblée nationale à Paris, et qu'ils avaient 38 sièges donc à pourvoir contre 544 pour les députés métropolitains alors. Mais en tout cas, ce sont en général ces députés africains représentant l'Afrique à Paris, à l'Assemblée, qui sont retrouvés à la tête de leur pays après des premières élections. Et puis en l'espace de quelques années, assez rapidement, le temps d'un mandat en général, donc à peine 5 ans, la plupart sont passés au système de parti unique, en interdisant les autres partis, ou bien éventuellement en éliminant leur chef. C'était le cas de Ruben Oumniobé, le chef de l'Union des peuples du Cameroun. Et puis, donc, du coup, ce phénomène de parti unique s'est retrouvé dans énormément de ces pays d'Afrique francophone, en tout cas.
Et c'était très subtil, même si dans les constitutions, le multipartisme était prévu, les interdictions d'autres partis n'étaient pas écrit de façon formelle. Il n'y avait pas de trace forcément, en tout cas pour certains pays comme la Côte d'Ivoire. Et le passage au parti unique, il s'est pratiquement imposé au lendemain de ces indépendances. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait le parti progressiste de Sékou Sanogo, qui est lui-même entre-temps décédé en 1958, et dont le mouvement a disparu à la veille de l'indépendance du pays. Il faut noter que le parti au pouvoir, il usait de la logistique de l'État pour inonder le pays de toutes ses sections, et de sorte que toute velléité de partis d'opposition, tu vois, ça s'évaporait. Il y avait aussi les méthodes d'intimidation, puisque toute l'administration était contrôlée par le sommet de l'État, et les préfets, les sous-préfets, qui entre-temps aussi ont récupéré les chefs coutumiers. Tout cela était des sentinelles qui veillaient à la suprématie du parti unique.
Et il faut dire aussi qu'il y a une donnée très importante à prendre en compte, hein, pendant ces années-là. Les années 60, c'est le contexte de guerre froide et d'opposition des blocs de l'Est et de l'Ouest. Et c'est vrai que la carte de l'Afrique va elle aussi peu à peu retrouver cette ligne de fracture Est-Ouest. Et donc pas mal de dirigeants, qu'ils soient démocrates ou pas, et bien souvent c'était pas forcément des démocrates, à partir du moment où ils emboîtaient le pas à la lutte anti-communiste, étaient soutenus par des dirigeants occidentaux. Et côté Bloc de l'Est, c'est exactement la même chose. On reçoit l'appui matériel et politique du grand frère soviétique. Ça a été le cas, par exemple, de l'Éthiopie, de la Guinée, ou bien du Mali. Enfin, l'un dans l'autre, au début des années 80, la grande majorité de ces pays africains sont sous un régime de parti unique, ou bien dirigés par des militaires, ce qui revient à peu près au même du côté des citoyens.
C'est du même au pareil.
Et c'était aussi le cas de la Côte d'Ivoire, tu en as dit un petit mot, qui était encore dans sa grande phase de prospérité économique et de stabilité politique aussi, et c'était du coup la vitrine des ex-colonies françaises. Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire en 1982.
Aujourd'hui, nous avons établi un régime de parti unique, et un peu partout dans le monde où existe le multiparti, on voit cela d'un mauvais œil. Je prends le cas de nos amis français. Votre unité nationale a été forgée par vos rois. On se dit d'abord français avant de se considérer breton, provençal, lorrain et autres. Nous naissons à peine à la vie indépendante. Nous avons hérité des Français, non pas une nation, mais un État. La nation est une construction de longue haleine. Partout où on a tenté le multipartisme, on a ressuscité les querelles tribales. Combien d'États africains ont adopté le multipartisme? On peut les compter sur les doigts de la main. Sans diminuer pour autant les mérites de nos frères sénégalais, il faut comparer ce qui est comparable. Le Sénégal est un pays qui avait, avant l'indépendance, 300 ans de vie commune avec les Français. Ils étaient même, certains le proclamaient fièrement, ils étaient Français avant les Corses. Nous devons dépasser les querelles tribales, les querelles de génération. Notre constitution prévoit le multiparti. Quand les conditions seront réunies, ceux qui viendront après nous, eh bien, établiront ce multiparti. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, le multiparti ne sert pas la cause de l'unité.
C'était Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire. C'était le vrai, hein, je précise, puisque c'était donc pas toi, Solo, qui l'imitait. Et il justifiait le parti unique dans son pays, donc la Côte d'Ivoire. Mais Solo, est-ce qu'on peut pas lui donner partiellement raison quand il dit que la France s'est pas unifiée sous un régime démocratique et qu'avant d'être une nation, enfin, qu'elle a dû être une nation d'abord, plutôt, avant d'accéder à la démocratie? Est-ce que c'est pas un peu la même chose pour l'Afrique?
Chez moi, les anciens prennent une image pour expliquer certaines situations. Le président Houphouët-Boigny cite l'exemple de la France. C'est comme si la France avait déjà construit un bâtiment et arrivait en cours de route, arrête ce bâtiment. On ne va pas venir l'écraser et recommencer la construction. Tout ça pour dire, on ne va pas faire forcément comme la France. On va plutôt nous inspirer de son expérience. Mais en fait, tout ça pour dire que le président Houphouët-Boigny mentionne cet exemple parce qu'il lui apportait beaucoup d'eau à son moulin. Sinon, en fait, je voudrais pas entrer dans une polémique avec un mort, mais Houphouët-Boigny a bien utilisé l'appareil d'État pour promouvoir les nouvelles idées occidentales, le nouveau mode de fonctionnement qu'on a importé. On avait tous les moyens pour les promouvoir. Donc, pour la démocratie, le multipartisme dans nos pays, on pourrait user de tous ces moyens-là pour l'instaurer dans nos pays, plutôt de dire on va réveiller le tribalisme et fracturer l'unité nationale.
Si je te suis bien, en fait, tu es en train de dire que, parce que c'est vrai que pas mal de présidents africains ont utilisé cet argument en disant nos populations sont pas mûres pour la démocratie, et c'est vrai que l'État était tel qu'il est en Occident, en tout cas importé depuis peu, mais toi tu es en train de me dire que si finalement on avait pu mettre en place l'école et tout un nombre d'autres institutions qui existaient, on aurait pu aussi faire en sorte que rentre dans la tête des gens la culture démocratique, c'est ça?
Absolument, d'autant plus que dans la gestion de la chose publique de nos sociétés traditionnelles, ce qui peut s'apparenter à la démocratie existait. Je prends l'exemple de la tribu d'Houphouët-Boigny, justement les Akans, la tribu à laquelle appartenait Félix Houphouët-Boigny, dispose d'un mode de gestion de la chose publique qui prend en compte la participation de la base, c'est-à-dire un mode de gouvernement qui, s'il n'est pas la démocratie intégrale selon le modèle occidental, il lui ressemble. Parce que, pareil comme dans l'Empire mandingue, on avait les représentants des différentes grandes familles, des différentes générations, des différentes institutions, etc., qui participaient à la prise de décision de la chose publique.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du milieu des années 60 au début des années 90, la plupart, sinon tous les dirigeants africains, refusent non seulement la démocratie, mais mettent en place des dictatures qui prennent pour certaines d'entre elles un tour sanglant, voire carrément ubuesque parfois.
Et par exemple, quand parfois on affirme que l'Afrique ou les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie, moi je trouve que ce sont des propos de méprisant. Parce que tous ces éléments qu'on a importés de l'Occident, et qu'on appelle, ils ont été imposés avec les moyens de l'État, avec les hommes intellectuels qui ont fréquenté l'Afrique. Et tous ces dictateurs qu'on a vus sur le continent, je prends l'exemple de Jean Bedel Bokassa de Centrafrique, il est quand même édifiant. Il a pris le pouvoir.
Un côté ubuesque, justement.
Ouais. Voilà, il a pris le pouvoir par un coup d'État en 1968. Il s'est proclamé président à vie. Il s'est intronisé le 4 décembre 77 sous le titre d'empereur Bokassa Ier de Centrafrique.
Rien que ça.
Et tout ça sous la bienveillance de la France et le soutien matériel et technique du régime de Giscard d'Estaing. Et je veux dire, tous ces dictateurs-là bénéficiaient d'un soutien aussi de l'extérieur, quoi.
Oui, c'est vrai que ça a été le cas côté soutien par la France, mais aussi par les États-Unis, par la Belgique pour ses ex-colonies, etc. Il y a toujours eu cet agreement, comme disait Fela, c'est-à-dire cet accord tacite qui permettait à ces régimes de se maintenir au pouvoir.
Absolument, et pas de liberté de presse, pas de publication, enfin bref, on a maintenu des gens qui ne faisaient qu'enfoncer le continent dans une espèce de dictature, alors que si on laissait les Africains peut-être même prendre leur destin en main, sans cette influence, sans ce soutien de l'extérieur, il y avait des chances qu'on n'ait pas une pléthore de dictateurs comme celle qu'on a vu naître.
Et dans ces régimes autoritaires, en tout cas, il y a toujours eu une machine de propagande mise au service du guide. C'était le cas, par exemple, au Zaïre de Mobutu, alias Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, avec un nom aussi long, ça fait plus imposant, qui apparaissait dans le journal télévisé comme sortant des nuages.
tel un dieu vivant. Et c'est très bien raconté par son ministre de l'Information de l'époque, qui s'appelait Dominique Sakombi Nongo, dans un documentaire que je vous recommande, qui s'appelle Mobutu, roi du Zaïre, du belge Thierry Michel. Alors, parce que c'est vrai que pour mieux maîtriser la propagande, bien sûr, de la même façon qu'il y avait le parti unique, Solo, c'était aussi la grande époque des médias uniques. Et toi, tu l'as connu.
La télévision, la radio, la presse écrite, tous ces outils de l'État étaient au service d'un homme, celui qui était installé à la tête du pays. Et tous étaient complètement inféodés à cet homme, et c'était des outils de propagande, en fait.
Justement, c'est ce manque de liberté d'expression qu'on a retrouvé partout dans les pays qui ont eu ce régime de parti unique, qui était dénoncé toute sa vie par Fela. Et dans une chanson en particulier qu'on va vous jouer, No Agreements, où il disait « Mon frère n'a pas à manger, et voulez-vous que moi je me taise? Mon frère n'a pas de toit, et vous voulez aussi m'enlever le droit de parler? Nous, on n'est pas d'accord, c'est No Agreement. »
Just wait now, touch them, they see. I'm not gonna kill it. Make my brother hungry. They cannot talk. I'm not gonna kill it. Make my brother homeless. They cannot talk. No agreement today. No agreement tomorrow. Never. No agreement, never. No agreement, never. No agreement tomorrow.
Agreement de Fela Anikulapo-Koti du Nigeria sur France Inter.
Solo, fin 89, il y a eu un espèce de terrible orage géopolitique qui va changer complètement la donne dans le ciel des partis uniques. C'est la chute du mur de Berlin.
Ah ouais, là, c'est également la chute du bloc communiste en 89-90. Et ça a été un catalyseur, mais alors indescriptible, pour l'expression plurielle de la politique en Afrique. L'histoire va s'accélérer partout. L'apartheid qui est agonisant, c'est également une des preuves pour le reste de l'Afrique en tout cas, que toutes les dictatures sont prenables. Mandela, par exemple, est libéré en février 1990. Les oppositions clandestines partout réalisent que c'est le moment d'aller à l'assaut de la Bastille des partis uniques. Et ça s'active partout, l'underground, les shows, et les pouvoirs en place commencent à frissonner de partout, quoi.
Et la France, elle aussi, doit prendre acte de la lame de fond qui traverse le continent.
François Mitterrand, président de la République française en 1990.
Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire. Et qui, s'ils veulent bien retenir le principe édicté, la démocratie est un principe universel, doivent savoir comment s'y diriger. Et il n'y a pas 36 chemins. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement. Et il faut l'apprentissage des libertés. La France, bien entendu, liera dans sa démarche tous les efforts de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté.
Dans le discours de la Baule de François Mitterrand, qui avait été préparé par l'écrivain Éric Orsenna, qui était à l'époque conseiller de l'Élysée, François Mitterrand annonçait que la France n'imposerait pas la démocratie, d'accord, mais bon, qu'elle l'encouragerait en aidant financièrement les régimes qui joueraient le jeu. C'était vraiment ça l'affaire. Comment ça a été reçu, toi qui étais en Afrique à l'époque, Solo?
Voilà, on a assisté, mais les populations exultaient partout, parce que tout le monde a fait sa lecture du discours de la Baule. Et l'opposition s'est raffermie, les syndicats ont commencé à s'activer, et on a assisté à une espèce de raz-de-marée de ce qu'on a appelé partout en Afrique occidentale les conférences nationales. En fait, puisqu'il y avait des partis uniques à la tête de nos États, et pour restaurer ces États et les nouvelles constitutions, il a fallu remettre une sorte d'institution où toutes les couches sociales seraient représentées. Donc le régime en place était représenté dans la conférence nationale, il y avait la société civile, il y avait les chefs religieux, il y avait les syndicats, et il y avait bien entendu tous les chefs coutumiers. Et tout cela dans une salle pour discuter de la nouvelle orientation, des nouveaux apports qu'on pourrait réinscrire dans nos constitutions, et tout ça pour débattre le changement nouveau. Et ce vent nouveau qui a soufflé partout en Afrique noire, on l'a baptisé le vent de l'Est. C'est le retour au multipartisme.
Mais le fait qu'il y ait beaucoup de partis, ou qu'il y en ait eu en tout cas plus d'un après ces conférences nationales, ça signifie pas nécessairement qu'on soit arrivé à la démocratie.
Alors non, pas du tout. Je vais encore revenir sur un exemple récurrent, c'est le cas du Togo.
Le Togo, pour le situer, hein, c'est dans le golfe du Guinée, juste à côté du Bénin.
Voilà, voilà notre place. Et par exemple, quelqu'un comme le président Eyadema, qui, quand il est arrivé au pouvoir, par un coup d'État, et la conférence nationale du Togo s'est réalisée en 1991, pour instaurer le retour au multipartisme, pour réviser la constitution qui limite le mandat présidentiel à 2 mandats, pour, comment on appelle, favoriser l'émergence, en tout cas, de l'expression nouvelle. Et fin 91, et Adama, voyant que son pouvoir était menacé, eh bien, il balait tout ça du revers de la main. Et on rappelle que Adama, c'est l'ami de la France et l'ami personnel du président Chirac, comme il a lui-même dit à sa mort.
Quand tu dis balayer tout ça du revers de la main, ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça veut dire que toutes les décisions, la transition même qui était installée avec un premier ministre à la tête de l'État et pour diriger cette transition, ben Eyadema arrive et il dit ah bon, tout ça, ça suffit. Il a même dit une phrase dont les Togolais se rappelleront toujours: la récréation est terminée. Ça veut dire plus de transition et puis le reste on verra d'ailleurs après. Et d'ailleurs, quand il a voulu balayer la transition, c'est l'armée qui est venue encercler l'hémicycle du Parlement et a bousculé le Premier ministre qui était installé pour la transition.
Et ça, c'est effectivement assez convaincant.
Donc, c'était donc une sorte de retour au multipartisme, mais de façade, quoi. Et et à demain, donc, enterre la transition, et puis, on constate le même scénario, cet exemple du Togo, c'est le même scénario qu'on constate dans un grand nombre de pays d'Afrique noire, où les anciens dictateurs continuent de s'accrocher au pouvoir.
Alors c'est vrai qu'il paraît y avoir un agreement, hein, comme disait justement Fela, une entente tacite entre les dirigeants des pays riches et ceux qui se maintiennent au pouvoir envers et contre tout et contre tous sur le continent. Mais d'un autre côté, ce passage au multipartisme et l'orientation vers plus de démocratie, après parfois 30 ans de parti unique, ça n'allait pas complètement de soi non plus. Et d'après Tikenja Fakoli, le reggaeman ivoirien qu'on a entendu tout à l'heure, et ben justement ça ne va toujours pas de soi, notamment dans les campagnes.
La population rurale, je dirais que ils ne savent pas ce que c'est la démocratie. Ils ne savent pas ce que c'est la démocratie, puisqu'on ne leur a jamais expliqué. Tu demandes à quelqu'un d'un village qu'est-ce que c'est que la démocratie. Ah, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que bon, quand les élections arrivent, les gens viennent nous parler, tout ça. Mais les gens ne savent pas. Pour que déjà, ils se sentent libres, pour que déjà, ils se mettent en confiance, pour que déjà, ils se sentent décideurs. Il faut qu'ils sachent déjà ce que c'est. On ne leur a pas expliqué. Si les dirigeants africains étaient de bonne volonté, à partir du moment où ils savaient que c'était indispensable, il aurait fallu prendre des années pour expliquer à la population. Leur dire que désormais, dans la famille, montrer à la télé que le papa peut être, par exemple, UMP, et la maman PS, et les enfants du parti de Vert ou communiste, etc., et qu'on pouvait le faire, avoir un débat à table, discuter, et puis bon, celui qui a raison peut peut-être amener, si le gars qui est communiste fait des démonstrations devant ses parents, peut peut-être attirer celui qui a l'UMP ou bien qui est chez les Verts, etc. Il aurait fallu prendre des années pour expliquer ça. Ça n'a pas été fait. Donc on est arrivé, boum, on dit, ah voilà, il y a plusieurs candidats. Et du coup, des familles, je prends l'exemple d'Odjiné, mon village, où il y a une grande famille Touré qui, pendant des décennies, se sont partagés la chefferie. C'est-à-dire, la chefferie fait le tour des familles Touré à Odjiné.
Ils sont chefs tour à tour, toujours dans la famille Touré.
Voilà. Comme on n'a pas expliqué. Donc, du coup, nous nous sommes retrouvés en 90 avec deux candidats Touré, donc de la même famille, qui se sont entre-déchirés. Et la population avec. J'étais là-bas, je comprenais pas. Il y a des gens qui n'achetaient pas du piment au marché chez une femme parce qu'ils pensent que l'autre femme soutient l'autre Touré. Tu vois, il y avait des Touré. Bah, les deux candidats, il y a un qui s'appelait Vakaba Touré et il y a un qui s'appelait Vakamoué Touré. Donc il y avait des piments Vakaba, du sel Vakamoué, du pain Vakaba, etc. Les gens. Même ça allait au-delà de là, les funérailles. Ceux qui meurent du côté de Vakaba, on prend le corbier à Vakaba. Ceux qui meurent du côté de Vakamoué, on prend le corbier à Vakamoué. Donc, cette population est restée déchirée jusqu'en 95. Ce qui les a un tout petit peu rassemblés, c'est quand il y a eu l'histoire Alassane Ouattara, qui est un fils de la région, dont la candidature a été rejetée par tout. Les tenants du pouvoir qui se sont succédés au pouvoir après au Fulbagny de 93 jusqu'à maintenant. Quand ils ont vu que leur fils, parce qu'Alassane Ouattara c'est le fils de toute la région, ils se sont dit, mais attends, c'est con. On est divisé ici, sur le plan national, on a un fils qui est rejeté. Il vaut mieux qu'on se mette ensemble, qu'on le pousse dans son combat. Donc voilà un peu l'exemple palpable qu'il y a eu dans mon village. Et aujourd'hui, je pense qu'il est un peu... Et je pourrais dire que c'est un exemple national.
On a vu toutes les autres crassies. Maintenant, on veut la manger crassie ou rien. Ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris.
Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer au compi-papa.
On a tout compris. On a tout compris.
C'est toujours le même scénario.
On a tout compris.
Les marchands d'illusions sont là.
On a tout compris.
Ils nous font rêver des bourreaux.
On a tout compris.
Ils achètent nos consciences contre des mères. Madalame de la Mingambinda.
On a tout compris.
Ou Madalame Manolakambinda.
On a tout compris.
Ngonde tala nyema gano.
On a tout compris.
Ngonde tala nyema gano.
On a tout compris.
Ngonde tala nyema gano.
On a tout compris. On a tout compris. On a tout compris. On a tout compris. On a tout compris.
On a tout compris. Mangécratie de Tiken Jaffa-Coli sur France Inter. Vlad, tu remarqueras, et nos auditeurs l'ont remarqué aussi, que Tiken Jah utilise ce néologisme mangécratie tiré de démocratie pour exprimer la désillusion des populations africaines auxquelles on a promis monts et merveilles grâce à la démocratie. Et maintenant, ces populations, après avoir attendu cette démocratie en vain, elles veulent du concret. On veut du mangécratie parce que votre démocratie, on voit pas ce que ça a changé dans nos assiettes, quoi. On veut du concret tout de suite et maintenant.
Justement, Solo, après la Baule, les conférences nationales dont tu as parlé tout à l'heure, le retour au multipartisme, c'est vrai que beaucoup des pays d'Afrique sont aujourd'hui officiellement des démocraties. Mais peut-être, comme dirait encore une fois Tiken Jaffa-Coli, ouais, c'est des photocopies de démocratie et pas l'original.
Et pire, des photocopies très, très pâles. Parce que ce qu'on constate souvent dans nos pays, c'est que le jeu est faussé à la base. Dans bon nombre de pays, les élections sont organisées par le ministre de l'Intérieur, qui lui-même est nommé par le président de la République qui est à la tête de l'État et qui n'a qu'une seule envie, c'est maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà la première grosse faille, à mon sens. Et deuxième faille, le parti au pouvoir prend des longueurs d'avance sur l'opposition parce qu'il use de la logistique de l'État, les voitures de service, l'administration, l'imprimerie, bref, l'essence, pour battre sa campagne. Ça, c'est également une des grosses failles. Et comment on appelle, il n'y a pas de structure d'organisation qui soit autonome. Il n'y a pas une commission autonome indépendante pour organiser les élections. Et il y a également les fameux bulletins de vote. La plupart des oppositions exigent qu'il y ait un bulletin unique sur lequel il y aura l'effigie des différents partis qui participent aux élections. Ça limite les fraudes parce que quand chaque parti a son bulletin de vote, non seulement le coût de production est très élevé, mais le parti au pouvoir peut en profiter pour bourrer l'urne. On me répondra, mais si c'est le bulletin unique, il peut également cocher là où il y a son effigie pour bourrer là. Mais c'est encore plus long et ça aurait permis de limiter les dégâts avec le bulletin unique.
Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir été à Madagascar en 1997. Il y avait des élections à ce moment-là et il fallait vraiment voir la ronde des candidats qui allaient, par exemple, s'afficher chez le guérisseur du coin parce qu'on savait qu'il avait, lui, de l'influence sur les gens. Donc, on voulait essayer de faire passer ces messages comme ça. Et évidemment, souvent, en échange d'une rétribution pour ce guérisseur, donc ça se monnaie, il les voit, et puis il y avait aussi pas mal de votes qui s'achetaient tout bonnement et simplement à coup de distribution de sacs de riz. Là encore, ce sont souvent les candidats du parti au pouvoir qui ont les moyens de cette politique ou de cette campagne. Et puis, c'est vrai que pour pas mal de gens du commun qui voyaient les élections comme une sorte de grande gesticulation de gens en costard qu'ils ne fréquentaient jamais en dehors des périodes électorales, le coût du sac de riz, il valait mieux un tien que deux tu l'auras.
Absolument, et je crois que si tout ça fonctionne, c'est lié aussi au problème d'éducation. La plupart des électeurs n'ont pas été à l'école, ne sont pas alphabétisés. Il n'y a pas une volonté réelle des pouvoirs de donner une éducation claire et précise avec une information concrète aux populations pour entretenir cette culture démocratique, pour inciter les gens à voter pour quelqu'un qui a un programme et non pour son ethnie ou pour parce qu'il est de la même région. Et ce déficit d'éducation aussi est l'un des problèmes de la culture démocratique dans nos pays. Et puis bon, la paupérisation aussi aidant, c'est facile d'acheter des voix.
Et puis chaque élection, désormais, est souvent, en tout cas, une période d'instabilité potentielle, parce que très souvent, il y a contestation de résultats, que ça soit légitime ou non, d'ailleurs. Un manque de transparence générale que dénonce le Tchadien Carcassonne. Il vit en France, mais visiblement, il garde des souvenirs assez clairs des élections dans son pays, à la tête duquel est encore installé un de ces dinosaures qui s'accroche au pouvoir, Idriss Déby, et la chanson s'appelle « Élections transpirantes ».
Je suis le roi des animaux de la forêt, les élections approchent. Faut les gagner, mise en place de toutes les commissions qui en commission distraire l'opinion. N'y entre que des animaux de paille, ceux qui jouent les honnêtes subiront de représailles. On est à 100 jours des élections, il fait chaud, les animaux s'excitent sur des jurons. Recensement, manipulation, trucage de liste, pas sûr de gagner, transparence hors piste. Les primates, eux, viendront saler la sauce, où je gagne au premier tour, où je vous fauche. Faites mascarade d'une corée de transparence, des victoires à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Faites mascarade d'une corée de transparence, des victoires à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Deuxième phase, campagne électorale, je veux tous les marabouts ici dans la capitale, avec tous les chefs des tribus politiques, qui n'ont pas de base mais qui veulent du fric. Moi, je ferai d'eux des pseudo-poids lourds, de faire valoir pour gagner dès le premier tour. Corruption, intimidation des chefs traditionnels, comme ça j'aurai des voix à l'appel. Que ceux qui parlent le jour aient une valise la nuit, assuré du soutien solide et d'occidental, chancellerie, j'aurai la victoire au bout de canon, que dis-je, au bout de mascarade. D'élections, faites mascarade d'une corée de transparence, des victoires à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bouts. Faites mascarade d'une corée de transparence, des victoires à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bouts. Par mes deux bouts.
Carcassonne, élection transpirante et non transparente. Alors, sur France Inter.
Je rappelle Solo que Carcassonne sera en concert plusieurs fois au mois de juillet, notamment le 29 à Paris au Moulin à Café à 19h30, c'est dans le 14e arrondissement. Vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site franceinter.com, émission L'Afrique Enchantée. Bon, Solo, on a parlé de tous ces difficultés, toutes les failles de l'installation progressive de la démocratie sur le continent, même si c'est vrai qu'on a parlé plus de l'Afrique francophone. Il y a quand même quelques pays qui ont réussi à concilier stabilité politique et établissement d'une démocratie qui fonctionne quand même. Le Sénégal, le Kenya, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Mali, c'est pas
un
exemple.
Ah ouais, par exemple, vraiment, l'exemple du Mali, il faut l'installer sur le sommet de la Tour Eiffel pour qu'il soit visible, quoi. Il est pour moi l'une des multiples démonstrations que si l'extérieur n'interfère pas tout le temps dans les affaires africaines, le continent dispose d'intelligence pour se gérer. Dans ce pays, qu'est le Mali, le général de brigade Amadou Toumani Touré, dit ATT, il écrase la dictature de Moussa Traoré en mars 1991. ATT met en place les institutions de la Troisième République. Il organise la transition démocratique en réinstaurant le multipartisme. Il remet le pouvoir aux civils et Alpha Oumar Konaré est élu président du Mali en avril 1992. Et ce n'est que 10 ans plus tard que ATT, Alpha Toumani Touré, se représente aux élections qu'il remporte en juin 2002. Ça, c'est un exemple.
Alors c'est un exemple, et puis c'est vrai que dans d'autres pays, dont on ne peut pas dire autant de bien, en tout cas quant à la réussite sur l'établissement de la démocratie, on assiste quand même maintenant, à chaque fois qu'il y a une période d'élection, à la mise en place des commissions électorales indépendantes qui sont justement censées garantir la transparence des élections. Voici le point de vue du rappeur sénégalais Didier Awadi à ce sujet.
Les commissions nationales autonomes souvent sont mises en place par des dirigeants souvent qui n'ont pas les mains propres, et donc à partir de là les populations doutent de l'autonomie, de l'indépendance de ces commissions nationales électorales. Donc, c'est toujours ça. Il faut connaître la maturité et dire qu'on va mettre des gens qui sont impartiaux. Mais ça veut dire, en mettant des gens impartiaux, ça veut dire qu'on peut perdre les élections. Quand on a beaucoup d'affaires, qu'on a peur que les gens jugent, quand on a du sang sur les mains, on ne va pas mettre des gens qui seront impartiaux. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays.
La quasi-totalité des élections qui se déroulent sur le continent africain sont contestées par les oppositions.
Moi, je pense que le fait que les oppositions contestent, c'est un phénomène international. En Italie, tout dernièrement, Berlusconi a contesté. Dans beaucoup de pays, les gens contestent les élections. Mais ça dépend des cas. Hein. Ça peut être fondé, ça peut être de la mauvaise foi. Dans le cas de Berlusconi, c'était de la mauvaise foi. Mais chez nous, quand on sait que le juge est parti aussi, on a le droit de douter de sa partialité. Donc je pense que c'est juste ça. Et tant que les juges seront partis aussi, donc on aura le droit de douter. Les opposants auront beau boycotter, auront beau crier. Si le juge, c'est lui qui décide, s'il est dans la compétition, eh bien je pense qu'il va tirer la couverture de son côté.
Chaque fois que le peuple parle aux urnes, maman, c'est parce qu'il espère un vrai changement. Malheureusement, j'entends encore toujours le même cri. J'ai dit en Afrique, le règne des dictateurs. Le viol de l'imaginaire n'est pas un mythe, il me fait peur. Il nous viole ainsi la conscience, vole ainsi la confiance. Technique imparable qui de plus détruit la méfiance. Et tout satanique qui se resserre autour du cou. On prend les coups à tort et à travers de la vie, on perd le goût. Alors on pense à fuir loin du continent, oui loin de tout. Et on va payer notre visa pour les prix d'or à tous les coups. Et les cerveaux du continent balayent la mer de l'Occident. Nettoie les chats et vendre la dope, tu veux savoir c'est irritant. On va me dire tu perds du temps, tu te répètes tout le temps. Mais quand je parle de révolution, c'est pour le bien du continent. Je te jure, le truc est bizarre. L'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, pourtant c'est toi qui donne le pouvoir. Le truc est bizarre, l'amnésie des mecs au pouvoir. Le président t'oublie, oublie le président.
Pour connaître de vraies élections, je pense qu'il faudrait des vrais candidats avec des vrais programmes. Pas quelqu'un qui vient avec un programme pour son ethnie. Pas quelqu'un qui vient avec un programme pour son clan. Ou bien pour son groupe d'amis. Ou bien son groupe d'investisseurs. Et des gens qui ont des programmes qui mettent en valeur une nation, la construction d'une nation. À partir de là maintenant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler de vraies élections. Les gens sont prêts à élire, à élire d'autres, mais ça passe aussi par l'école. Il faut que l'information passe, que les gens soient au fait de ce qui se passe dans le monde, les enjeux mondiaux, et pour comprendre les enjeux nationaux par rapport aux enjeux mondiaux. Parce qu'on va élire quelqu'un. Ok, il va faire le travail pour nous pendant un certain nombre d'années. Il va travailler au plan national, mais dans un cadre mondial. Donc, voilà, je pense que pour connaître des élections, il faut connaître une maturité, quoi. Maturité, comprendre ce qui se passe autour de nous et comprendre pourquoi on va mettre telle ou telle personne. Mais il ne faut pas qu'on mette telle ou telle personne parce que, ah, lui, il est de ma région, il est du nord, il est du sud. Il est chrétien comme moi, il est musulman comme moi. Je pense qu'on nous divise trop par ces petits moyens-là. On nous divise trop par l'appât du gain. Du gain, ça peut dire, dans notre sous-sol, on a du pétrole, on a une puissance étrangère qui vient, qui nous dit, écoute, nous, on va exploiter le pétrole, toi, personnellement, tu auras tant de bénéfices. Il faut qu'on oublie ça, qu'on arrive à passer outre.
L'Afrique enchantée. Vladimir Cagnolari, Solo Soro, sur France Inter.
Solo, il y a évidemment énormément d'aspects ou de pays dont on n'a pas pu parler et déjà on court après l'heure. Je voudrais qu'on parle un petit peu du Congo-Kinshasa, c'est-à-dire la République dite démocratique du Congo. C'est un pays qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'a jamais connu d'élection depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 60. Et c'est vrai que depuis cette accession, on en avait touché un mot l'autre jour au moment de l'unité africaine, le pays a connu pas mal de vicissitudes.
Il faut dire que ces vicissitudes, c'est surtout la, comment on appelle ça, la sécession de la région orientale du Katanga. Ensuite, il y a eu l'assassinat du premier ministre Lumumba. On en a parlé dans deux éditions. Et puis, la confiscation du pouvoir par Mobutu jusqu'en 1997 est largement soutenu par l'Occident, malgré son aspect dictatorial.
Et depuis la chute de Mobutu en 97, eh ben, le pays s'est retrouvé sous le feu croisé de plusieurs mouvements rebelles, appuyés par des pays voisins qui convoitaient évidemment les richesses du pays, dont les sous-sols sont très riches, notamment en coltan, hein, c'est ce minerai qui est utilisé pour les téléphones portables et les ordinateurs portables aussi. Du diamant, etc. Et au bout du compte, le pays s'est retrouvé divisé en plusieurs zones, chacune contrôlée ou plutôt exploitée par un de ces mouvements rebelles. Le gouvernement, alors, n'avait plus que la maîtrise d'un tiers du pays. Et c'est une guerre, en fait, dont on a assez peu parlé ici, et qui a directement, ou par ses conséquences, fait près de 4 millions de morts. Alors, je sais qu'à force d'entendre des chiffres de ce genre, on finit par se blinder, et ça nous aide pas forcément à nous rendre compte de l'ampleur du dégât, mais c'est énorme, surtout quand on compare au silence qu'il y a eu ici, que ce soit du côté des médias ou du côté de nos gouvernants aussi. Enfin bref, toujours pour rester sur le Congo, et cette guerre, il y a eu plusieurs rounds pour parler de paix. Et puis, finalement, ils ont abouti en 2002 à une formule de gouvernement assez inédite qui devait gérer le pays jusqu'à l'organisation d'élections libres. Donc, je le rappelle, les premières depuis l'indépendance en 60.
Et cette formule à laquelle tu fais allusion, c'est le 4 plus 1, 4 vice-présidents, dont 3 issus des principales rébellions et un président qui est Joseph Kabila, qui a succédé à son père assassiné en 2001.
Ouais, justement, le 4 plus 1, c'est ce que les déçus de la transition congolaise appellent 4 plus 1 égale 0. Mais bref, les élections, elles devaient avoir lieu déjà le 30 juin 2005, mais elles ont été reportées d'un an. Pour des tas de raisons, il fallait recenser énormément de gens. L'ONU, qui a quand même 16 000 hommes sur place, avait du mal à pacifier l'est du pays où il y a toujours des troubles. Bref, malgré toutes ces difficultés du pays, les élections devraient se tenir le 30 juillet prochain. C'est bientôt, c'est pour ça qu'on vous en parle. Et ce seront les premières depuis l'indépendance du pays en 1960. Donc, bon courage aux Congolais.
Bon, fiston, je crois qu'on arrive à l'étape, c'est le moment de demander la route.
Bon, on vous demande la route, acceptez encore de nous la donner aujourd'hui. On se retrouve de toute façon demain pour parler d'une des béquilles qu'ont pas mal utilisé les dictateurs. Je veux parler des forces de l'ordre, ça risque d'être sympathique. En tout cas, pour aujourd'hui, merci à Michel Soulier qui a réalisé l'émission, Hortense Vol, la Niette qui était avec nous, Valentin Vaner que je vois de l'autre côté de la cabine, et je crois que c'est Jean-Philippe, mais je risque de me faire allumer. Jean-Philippe Jeanne, qui était aussi à la technique aujourd'hui. À demain, portez-vous bien.
À demain, à tous.
Et là, c'est la publicité.
Bien sûr, Millionnaire vous offre la possibilité de devenir millionnaire.
Oui!
Et pour ces 15 ans, Millionnaire vous offre en plus des centaines de milliers de tickets et des séjours de rêve dans des villas de rêve.
Oui, oui, oui!
Mais bon, Millionnaire ne vous offre pas la paire de tongs qui va avec.
Ah oui?
15 ans de Millionnaire, 15 ans de...
Oui!
De rêve.
Opération organisée à partir du 13 juillet 2006 jusqu'à épuisement des tickets, édition spéciale avec coupon bonus. Voir modalité au sein du règlement publié au journal officiel.
Sur France Inter, les informations avec Céline Asselot.
Jacques Chirac demande l'arrêt des violences au Proche-Orient. Il a qualifié de comportement aberrant les bombardements israéliens au Liban et les tirs de roquettes du Hezbollah. Au sommet du G8, le président français s'est dit favorable à l'envoi d'une force internationale au Liban. Envoi qui avait été proposé par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Mais cette mission devra posséder de réels moyens de coercition, selon Jacques Chirac. En attendant, le président a demandé à Dominique de Villepin de partir ce midi pour le Liban. On l'écoute.
J'ai décidé d'envoyer le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, à Beyrouth et de lui demander d'aller exprimer, en mon nom personnel et aussi au nom de la France, au Premier ministre libanais, M. Signora, notre solidarité dans l'épreuve et notre soutien.